Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
On dit parfois que les rebelles ont de la difficulté à traverser le temps. Mais il y a des rebelles qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Bonjour, Eve Salveille.
Salut.
Un nouveau livre, une biographie, une autobiographie. Sois toi et tes belles. Est-ce qu'on est à l'heure des bilans? Quand on fait une biographie, est-ce que c'est pour mettre un point final à ce qui s'est passé et ouvrir la prochaine porte?
Non. Une partie du parcours. En tout cas, moi, je le vois pas comme un bilan, je le vois comme une belle introspection. Ce que je savais pas, en fait, je savais pas dans quoi je m'embarquais en m'embarquant dans l'écriture d'un livre. Puis je l'ai découvert au fur et à mesure, puis j'ai découvert que j'ai appris à me connaître à travers, en écrivant ça, puis que c'est une belle introspection, puis je le conseille à tous. Vraiment, c'est tellement de fun comme exercice. Puis de savoir qu'il y a un livre qui est là pour nos enfants, nos petits-enfants, pour témoigner d'une génération. Puis je l'ai écrit durant la COVID. Fait que dans 20 ans d'ici, les petits-enfants vont dire « Toi, t'étais dans la COVID. C'était comment?
» T'as vécu cette époque-là.
Ben oui.
Mais quand on fait une biographie, ce qui est particulier, c'est qu'on redécouvre son histoire, même si c'est une autobiographie, même si on raconte son histoire. Est-ce qu'il y a des moments qui ont popé en cours de route? Tu te disais, « Hey, c'est vrai, il m'est arrivé ça, je pensais plus, là, ça remonte. »
Oui, puis je t'ai étonné aussi du nombre de... J'ai été impressionnée par ma propre carrière, dans le sens que j'embarquais tout le temps dans les pieds d'un personnage. De deux, j'étais tellement occupée que j'avais pas le temps de voir ça passer puis d'apprécier la grandeur, l'énormité de ma carrière de mannequin. Puis en l'écrivant puis en nommant tout ça, je suis comme, aïe, quand même, là, c'était moi qui étais là. Dans ma tête, à moi, c'était quelqu'un d'autre.
Mais c'est parce que c'est long, 30 ans. On n'y pense pas, on se lève pas le matin en disant « Ah, les 30 dernières années ». Sauf que quand on prend le temps de s'asseoir, de raconter son histoire, tu te dis « 30 ans ». Alors que le passage du temps sur toi ne semble avoir aucune emprise.
C'est donc bien fait, merci.
Non, mais j'en parlais à une amie commune, Geneviève Borne, me disait la même chose.
Ah oui?
Cette femme-là ne vieillit pas.
J'ai fait un deal avec le diable.
Ou des douches de format, on ne sait pas trop. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tu as conscience du fait que ton image, on te connaît beaucoup par l'image, ton image est intacte?
Ben, mon image est intacte, j'ai des rides, puis il y a ça ici qui commence à arriver, puis ça là, puis ça là, puis ça là.
Il y en a pour qui ça arrive moins que d'autres.
Ouais, ben peut-être que j'ai été chanceuse, je pense que c'est une question de génétique là, mais je suis correct avec ça de toute façon. Je pense que de la manière que tu vieillis, c'est génétique, mais ça a aussi rapport avec comment tu étais heureuse. Tu vois les gens qui ont été malheureux beaucoup dans leur vie, on le voit, les rides sont plus du côté de la bouche, ça descend, c'est vers le bas, c'est les sourcils, la grosse ligne entre les deux sourcils. Moi, j'ai plus de lignes de rire.
Ouais, ben c'est vrai. Quand on te rencontre, tu sembles irradié.
Hey, merci, voyons donc.
Non, ben c'est, en tout cas, là, j'ai l'air d'en mettre beaucoup, mais c'est la pure vérité.
Merci.
Et puis c'est quelque chose qui peut être très cruel pour des gens qui vivent beaucoup à partir de leur image. Parce que toi, on te connaît à cause de l'image. Le look. Est-ce qu'il y a une entrevue dans ta vie où on t'a pas parlé de ton look?
Non.
Non, hein?
Ben, ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de... C'est un choix aussi que j'ai fait de continuer à faire la carrière de mannequin, parce que c'est pas une carrière difficile, mais c'était mon choix d'être là. J'aurais pu dire « fuck off », je me fais des piercings d'en face.
Ouais. Non, ben c'est comme Daniel Ouimet qui a toujours à répondre à des questions sur son film Valérie d'il y a 53-54 ans. Toi, la question du look, ben c'est quelque chose qui revient comme tel. Ce qui était un coup de tête au début, c'est devenu ta photo passeport pour le reste de ta carrière.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est de prendre... Tu sais, des fois, si tu repenses en arrière, je suis sûre que toi aussi, tu es capable de trouver dans tes expériences quelque chose qui était juste un coup de tête. Ah, je vais essayer de faire de la radio.
Oui, exactement.
Exact.
Et puis c'était
pas prévu, puis tu regardes en arrière, tu dis, tabarnouche, si j'avais pas fait ce coup de tête-là, Mm-hmm. Où serais-je aujourd'hui?
Parce que Eve Salvaille, évidemment, ben, c'est le crâne tatoué. Puis bon,
c'est ça... le tatou, le dragon. C'est pour ça que je l'ai mis sur le cover, parce qu'il y a même des gens qui ne se rappelaient plus de mon nom, mais qui se rappellent de la mannequin tatouée.
Oui.
Il y en a rien qu'une mannequin rasée avec le crâne tatoué.
Est-ce que Eve Salvaille a déjà pensé à une vie sans cette image forte-là? C'est-à-dire, quelle aurait été ta vie sans tatouage, sans ce message-là?
Seigneur, c'est une très bonne question. Non, je me suis jamais vraiment arrêtée à penser à qu'est-ce que ça aurait été sans ça. En fait, je suis très consciente du fait que je suis assise ici aujourd'hui, mm-hmm, dans une émission de radio qui parle des personnalités de l'année. Christy, c'est pas rien, là.
Ouais.
Ça, c'est grâce à quoi tu penses, le tatou? Fait que sans le tatou, je suis pas assise ici.
Ben, il y a 25 ans, il y a 30 ans, oui. Sauf que là, c'est à cause du livre et c'est à cause de l'expérience d'une femme qui se raconte.
Oui, mais même ça,
la
je
présence
veux dire...
se justifie comme ça aujourd'hui.
Parce c'est
que
gentil.
Parce que cette biographie-là, soit toi et tes belles, bon, on fait un petit jeu de mots avec ça. Est-ce qu'on t'a déjà fait taire? Est-ce qu'on a déjà eu envie de te faire taire et de ne montrer que l'image?
Ben, toujours. J'ai passé ma vie à faire ça. Puis là, c'est ça, avec l'exercice du livre, je commence à apprendre à être moi puis à être belle.
Mais raconter son histoire, comme je le disais tantôt, il y a des moments qui doivent remonter à la surface. Tu ne l'avais pas vraiment fait avant. Est-ce qu'il y avait une certaine pudeur qui t'empêchait de le faire? Et là, c'était le moment d'y aller?
Oui, c'est un peu ça. Je pense que ça coïncide aussi avec d'admettre que je suis alcoolique. Puis de commencer à faire des programmes des 12 étapes, donc des réunions dans les AA. On partage beaucoup, on apprend à s'ouvrir, on apprend à parler de nos trucs. Donc, en faisant ça, ça porte à ouvrir sur tous les côtés, de toutes les facettes de la personnalité.
Ce qui est particulier, quand on parle d'alcoolique anonyme, il y a le mot « anonyme » là-dedans. Or, tu es probablement la personne qui, vu ton image, est la moins anonyme du groupe.
Je sais, puis je veux pas... En fait, on dit anonyme parce que, imagine-toi que Eve Salvaille influence quelqu'un en disant « Moi, je suis dans l'alcoolique anonyme, ça m'a sauvé la vie. Mm-hmm. » Toi, t'es un fan de Eve Salvaille, puis t'as des problèmes d'alcool, tu rentres dans les AA parce que ça a marché pour Eve Salvaille, ça fait 4 ans qu'elle est sobre. Demain, je rechute. Touchons du bois que ça arrive pas. Mais demain, je rechute. Ouais. Toi, t'es rentré là-dedans, ben ça marche pas, garde, elle va rechuter. Ça marche pas, Léa, moi, je m'en vais continuer à boire.
Donc, il peut y avoir un risque.
C'est ça, le risque. C'est pour ça qu'on conseille de garder ça anonyme. Puis aussi parce que, je veux dire, tu te dévoiles comme ça, tu veux que ça reste.
Ben ça, c'est une autre chose, c'est faire le pas en avant quand on est une personnalité connue, d'embarquer dans un mouvement où, en principe, c'est l'anonymat qui prime. Ça demande une dose de courage assez particulière.
Cibolac. J'ai longé le mur, j'ai marché à l'ombre, j'avais des hoodies sur la tête, j'ai laissé pousser mes cheveux, je parlais pas. J'aurais pu mettre des lunettes fumées 8 heures le soir dans la salle de meeting, je l'aurais fait.
Oui.
Il a fallu que je passe à travers mon ego, mais vraiment.
Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop de. Il n'y a pas eu trop de heurts au début. C'était pas trop. Ça n'a pas trop fait mal?
Je pense que c'était mon troisième meeting à vie. Ouais. Je me suis assis dans la salle, puis il y a quelqu'un qui se revirait vers moi. Puis j'avais des cheveux, puis tout, là. J'avais tout fait pour être méconnaissable. Il se revire, puis il dit: Hey, t'es pas dans le cinquième élément, toi? J'étais comme: Tu sais, au début, je trouvais ça dur de me faire reconnaître dans les salles de meeting parce que dans ma tête à moi, c'était un échec. C'était le plus gros échec.
Oui.
D'admettre mon impuissance devant une bouteille d'alcool. Christy, j'en ai passé à travers tellement d'affaires, une fucking bouteille d'alcool qui m'a eu.
Ouais. Ce qui est spécial dans ton récit, c'est qu'on se rend compte que l'alcool, c'est arrivé relativement tard et les effets envahissants sont arrivés relativement vite.
Mm-hmm.
C'est peu de temps dans l'histoire de ta vie. Les premières consommations, tu parles d'à peu près 2006-2007 quand tu commençais à être DJ.
Oui, de 2005 en 10 ans. Finalement, c'est arrivé en 10 ans. Puis jusqu'à 2016. 2006-2016, genre. Mais c'est sournois, hein? Puis encore aujourd'hui, je peux pas dire dans ces 10 ans-là où est l'heure ou la journée où est-ce que j'ai perdu le contrôle.
Ouais.
Où est-ce que j'ai passé d'une fille qui était capable de boire un petit verre de vin en famille au souper, puis that's it, à je me lève la nuit pour boire. Je bois 24 heures sur 24. 1 litre de vodka par jour.
1 litre de vodka par jour, là... C'est beaucoup. Même pour des gens qui prennent un coup solide.
Je sais.
1 litre de vodka.
J'en étais fière, là. Moi, j'étais fière d'arriver à un bar puis de voir un gars qui allait me saouler puis qui allait me. Écoute, prépare, sors ton portefeuille, sors ta carte de crédit noire, man.
Oui, mais c'est ça, c'est comme le plus mec du groupe qui finit par gagner ses concours de tir au poignet, là. Mais 1 litre de vodka, pourquoi la vodka en passant?
Je sais pas, j'ai commencé avec ça, puis j'ai fini avec ça. Ça a été...
Parce que ça cogne, ça, là.
Ouais, ben, c'est plus ça cogne, mieux c'est. Parce que j'ai essayé de switcher au vin à un moment donné en me disant, le problème, c'est la vodka, c'est pas l'alcool, c'est la vodka.
Ben oui.
J'aime bien trop ça, fait que je vais boire du vin, vu que j'haïs ça. Puis en dedans d'une couple de jours, je buvais 2-3 bouteilles par jour, puis ça fessait pas assez, là.
Habituellement, les gens qui partent sur des... Passe-moi une expression sur des chires d'alcool pendant des années, emportent des marques, en sortent très poqués. Toi, manifestement, tu n'as pas été poqué par l'expérience physiquement, ce que l'on voit.
Ou est-ce que tu vois, peut-être?
Oui.
Mais c'est, sur les photos, puis je me suis aventurée dans les albums photos, on prend des selfies souvent, puis des années, de la dernière année de ma consommation, c'était pas cute.
Non,
j'avais le teint très jaune-vert, j'étais très enflée. L'alcool, ça fait enfler. C'était pas beau, là, j'étais pas belle. Puis je m'en rendais pas compte, en fait, probablement que je me regardais même pas dans le miroir, là, mais...
Est-ce que les amis d'Eve Salvaille s'en rendaient compte?
Les amis proches, mes deux amis, Alain puis Lynn, mon noyau... le savait, probablement qu'ils ont peut-être dit quelque chose, mais je m'en suis pas rendu compte, là.
Il n'y a pas eu d'intervention d'organiser?
Non.
Non?
Je le cachais très bien. Je cachais l'ampleur de ça, c'était très bien caché. Puis sinon, tout le reste, même qu'il y en a des amis qui sont quand même assez proches, qui m'ont dit, comment ça tu rentres chez Léa, t'as pas de problème d'alcool, toi?
De là, l'observation que je faisais, ça paraît pas...
Non.
Les contre-coups ne paraissent pas. Et à ce moment-là, même des amis relativement proches ne s'en rendaient pas compte. Mais ça demande, c'est de l'ouvrage d'être alcoolique dans ce temps-là?
C'est de l'ouvrage. C'est vraiment un job. Puis ça aussi, je m'en rendais pas compte. Maintenant, je regarde en arrière, puis mon Dieu que la vie est belle. Je me lève le matin. Déjà là, je suis capable de me lever le matin d'une manière normale.
Pas de barre dans le front?
Pas de barre dans le front, pas de maux de tête, pas de « oh my God ». Comment est-ce que je me suis rendu hier? Courir dehors pour aller voir si mon auto est là, faire le tour de l'auto pour voir s'il n'y a pas du sang dedans, une poque, quelque chose. Je me rappelle plus. Tu sais, je veux dire, c'est fucké, là. C'est pas cool.
Surtout après avoir fréquenté pendant des années un milieu où les gens peuvent être très désorganisés, de se retrouver après cette étape-là et là, de commencer. Est-ce qu'il y a un rapport entre la scène de la mode que tu avais mis de côté à ce moment-là, et ce qui est arrivé après, tu n'aurais pas pu te permettre ça pendant que tu étais top modèle en action?
Ben oui, je me suis permis pendant que j'étais top modèle en action. Je veux dire, le nombre de drogues que je faisais...
Là, c'était pas de la vodka, c'était...
C'est ça, c'est toutes des substances. Je veux dire, que ça soit la dépendance affective, que ça soit la bouffe, c'est tout des problèmes de contrôle, d'essayer de contrôler tout autour de nous, dont nous-mêmes, puis de pas s'aimer, en fait... Mais c'est plus un truc de contrôle, d'essayer de contrôler son poids, essayer de contrôler ses cheveux, essayer de contrôler ses rides, son alcool.
Essayer de contrôler ce qu'on peut, parce que quand on lit ta biographie, soit toi et tes belles, on voit aussi comment ça fonctionne dans le milieu de la mode. On vous prend en charge, il y a le chauffeur qui attend Eve Salvaille à la porte. Bon, tu sais, je te dis, il y a une prise de contrôle, on vous prend votre temps.
Oui.
Votre temps est compté.
Oui.
Votre temps est compté, puis pas à peu près. Même dans le chaos, il y a rien de plus militaire que le milieu de la mode, j'ai l'impression. Là.
Non, c'est ça, c'est ça. T'es belle et tu te tais. En fait, c'est, c'est l'oubli de soi, quelque part, là, ce métier-là. Ouais.
Parce que le côté glamour, évidemment, on en parle, puis c'est beau pour nous autres. C'est fait pour être beau pour nous autres. Là. On n'a pas à tout savoir. Sauf qu'en même temps, la mode, quand on gratte un petit peu, nous, comme eux, les mortels, on se rend compte que c'est un drôle de milieu.
C'est bien dit, drôle.
C'est un milieu étrange, mettons.
C'est un milieu très étrange. Mais en même temps, il y a l'effet Cendrillon est là. Je veux dire, pourquoi rester dans une carrière pendant 30 ans s'il n'y a pas quelque chose de beau là-dedans? C'est sûr et certain que moi, j'arrive avec mes jeans déchirés, puis tout d'un coup, je suis habillée en robe à 175 000 $ avec des trucs en diamant, puis je suis comme Cendrillon.
Sauf qu'en même temps, Cendrillon, c'est un personnage.
Oui, mais c'est quand même le fun.
Ça te sort de ta vraie vie, mettons.
Tu sais, quand t'es petite fille puis tu te déguises en princesse, c'est le fun. Il y a quelque chose de féerique là-dedans. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a tellement de dessins animés encore aujourd'hui avec des princesses dedans qui sont habillées en vêtements, qui ont l'air de vêtements de designer à Paris.
Ah oui, la Reine des Neiges, il y a des personnages fabuleux là-dedans. Mm. La petite fille t'a jamais quitté?
La petite fille m'a jamais quitté. Ben, je pense que tout le monde a son petit enfant intérieur. C'est juste qu'on le cache pour le protéger.
Je veux revenir sur les fameux personnages de la mode parce que dans ce livre-là, ben, évidemment, tu parles de Versace, puis bon, Lagerfeld, puis tu sais, ce sont des personnages.
Oui, définitivement.
Au point où, à un moment donné, on oublie qu'ils ont aussi une vraie vie, puis c'est du monde qui prennent leur douche et qui... Non, ben c'est ça, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, il y a tellement de personnages dans tout ça. Ça doit être un choc quand on découvre ces personnes-là dans leur réalité. Un choc pas nécessairement négatif, là.
Non, mais moi, je fais partie de ces personnes-là. Tu comprends? Quand je les découvre, les Versace et les Karl Lagerfeld, quand je vais coucher chez eux, c'est sûr que son statut hiérarchique, il est vraiment plus haut que le mien. Mais quand même, je suis dans la même catégorie de bébite.
Ouais.
Dans le sens que je suis une personne qui comme tu dis, on s'en fout que tu manges puis que t'es normal en dedans, là. Parce que c'est pas ça que nous, on veut voir.
Ouais. Parce que il y a des histoires de mode, surtout chez les jeunes modèles. Toi, c'est drôle, on a l'impression que t'as commencé ta vraie vie de modèle alors que tu approchais de la vingtaine. Or, il y a des jeunes modèles de 12, 13 ans, et là, on entend des histoires d'horreur sur l'alimentation, la privation, ces choses-là, sur des parents, des fois, qui sont bien contents de voir leur fille qui commence à avoir une certaine attention.
Mais c'est...
Tu l'as évité, ce passage-là.
Ben, c'est peut-être aussi un truc de génération parce qu'aujourd'hui, on regarde ça. Même moi, en tant que mannequin, quand j'étais au pic de ma carrière dans les années 90, sur nos photos, bon, il n'y avait pas l'Internet dans ce temps-là, mais sous nos photos, il y avait un numéro de téléphone, peut-être nos mensurations, des choses comme ça. Maintenant, sur un site web de mannequin, il y a le nombre de followers Instagram sous la photo, c'est tout. Fait que c'est vraiment un monde où est-ce que tout est retouché, tout est un peu comme des tu sais, les trucs congelés, là, que les soupers congelés, que tu t'enlèves le plastique, tu mets ça dans le micro-ondes, c'est tout fait, tout préparé, ready to eat.
Puis on sait ce que ça goûte.
Il faut que ça soit fait en 30 secondes. Puis pendant que tu manges, ben, tu regardes telle autre affaire parce qu'on multitask. Puis on n'a pas le temps de. C'est tout ça, la nouvelle génération. Moi, je sais pas, j'étais dans une autre génération probablement, là.
C'est spécial, par exemple, de parler d'autres générations. Tu sais, on parlait des rebelles tantôt, au début. Là, maintenant, même le New Wave est rendu vintage.
Oui! Ça nous rajeunit pas, en tout cas.
C'est ça, il y a des gens la cinquantaine et dans la soixantaine qui sont allés voir des spectacles de Clash, tu sais.
Yeah, oh, love the Clash.
On pense pas qu'on va vieillir, hein.
Ben... Moi, je suis restée là. C'est ça, là. C'est peut-être ça que tu vois dans mes yeux, là. J'écoute encore The Clash. J'écoute encore des affaires que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis je vis encore avec cette mélancolie-là.
Ouais.
Mais c'est ça. J'ai difficulté à m'adapter. On m'a tapé sur les doigts il y a plusieurs mois maintenant parce que j'avais aucune présence sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai fait énormément d'efforts, puis là, je fais des stories, puis des affaires, puis Je déteste ça.
C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu le fais à ton corps défendant?
Oh mon
Dieu. Tu le fais parce qu'il faut?
Je le fais parce qu'il faut. Ça fait partie de la business aujourd'hui. Puis je vois des belles réactions aussi. C'est sûr que c'est un peu comme le lit va toucher des gens. Puis les gens, pour communiquer avec moi, ben comment? Mm-hmm. Ils n'ont pas mon email address ni mon numéro de téléphone. Donc, ils communiquent à travers Messenger, à travers... l'affaire des messages sur Instagram. Là.
Oui.
Mais c'est ça, c'est vraiment pas ma génération. Tu sais, je vois beaucoup de posts sur Facebook avec est-ce que tu te rappelles de ces objets-là? Puis là, tu vois un téléphone sur le mur. Puis tu sais, les radios qu'on sortait de notre voiture, là.
Oui, les Blue Punk.
Je sais pas, t'es remettais dans ton auto, puis t'es enlevé. Après ça, il y a
dans
eu...
dans des Volkswagen, parce qu'on avait peur de se les faire
c'est
voler.
C'est ça, exactement.
Généralement, on les mettait sous le siège, puis c'est là qu'elle allait les voler. Là.
C'est ça! On se croyait bien, smart, hein? Check-moi, tu sais.
Regarde, j'ai caché mon radio, là.
T'aurais pu mettre une flèche en néon, ça aurait été presque aussi discret.
Les nouveaux réseaux, par exemple, comme tu le disais, peuvent te mettre en contact avec des gens que tu connais pas personnellement, qui vont aussi se confier à toi, qui vont lire ta biographie, je répète le titre, « Sois-toi et t'es belle », et qui vont se reconnaître là-dedans ou, à cause du propos, quand tu parlais d'alcoolisme tantôt, tout ça, qui vont entrer avec toi comme quelqu'un qui peut leur donner un coup de main. Est-ce que tu as eu droit à ces messages-là, des gens qui disent « Je m'identifie à ce que tu as vécu ».
Oui, beaucoup. Écoute, c'était le but de la biographie. Puis moi, je me suis dit, si je peux rejoindre une personne...
Tu te défiles pas de ça.
Pour que cette personne-là puisse s'identifier à moi, en s'identifiant aux mêmes peurs qu'on a, aux mêmes échecs qu'on vit, aux mêmes montagnes qui semblent l'Everest à ce moment-là, tu sais.
Mm-hmm.
Hey, écoute, je suis tellement contente. Je m'attendais du tout. Mais pas du tout à ça. Moi, j'ai écrit le livre en me disant, j'écris, je raconte mon histoire, mais c'est ça. J'aimerais ça que ce livre-là inspire quelqu'un à peut-être demander de l'aide s'ils en ont besoin.
Et là, il y en inspire plus qu'un, je suis sûr.
J'ai eu plusieurs textes, puis à chaque fois qu'il en rentre un, ça me touche tellement, là, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. C'est ça le but de l'exercice.
De là, la pertinence de l'écrire soi-même. Parce qu'on lit cette biographie-là et on entend Yves Salvaire qui raconte son histoire.
Oui, attends, tu vas m'entendre en audio aussi.
Ça, c'est une autre chose. Je voulais t'en parler. Présentement, tu es en train d'enregistrer ton livre.
Oui.
De lire ton livre.
Oui.
Faire une version audio pour les personnes non-voyantes. Bon, là. Il y a quelque chose, ça doit être encore une relecture, de relire après avoir vécu l'histoire. Là, tu as écrit ton histoire, puis là, maintenant, tu la racontes.
Mm. C'est le fun parce que je sais comment la raconter puis je sais que celle-là, c'est tellement trippant parce que les intonations, la manière de prononcer les choses, tu sais, juste les choses de à un moment donné, je parle du vieux monsieur qui me dit bon matin en japonais, mais tu sais, de Ohayou gozaimasu, mais c'est quelqu'un qui parle pas japonais ou qui a jamais entendu Ohayou gozaimasu va le lire mot pour mot Ohayou gozaimasu. Ça sonne différent. C'est comme, je sais pas, j'étais tellement excitée de le faire. Puis c'est le fun. J'avoue que je suis pas très bonne. Bon,
ça reste entre
nous autres. Ça, on le dit là pas à personne. Là.
Non.
Mais je suis pas... Ben, peut-être que je suis bonne, mais c'est je prends beaucoup plus de temps qu'une personne qui fait ça dans la vie. Disons que c'est... Il faudrait que je pratique un peu plus. Je ferais pas ça. Je me lancerais pas comme personne qui lit des livres audio. Je sais pas si je... Peut-être qu'avec...
C'est spécial de voir Eve Salvaille qui vient lui dire « Je suis pas très bonne. »
Je suis pas très bonne.
Mais avec une légèreté dans le ton.
Ah!
C'est pas donné à tout le monde.
Mais j'aime ça faire ça.
Mais
j'aime,
c'est ça, la
j'aime l'idée que toi, tu vas mettre le CD dans ta voiture. Parce que même des non-voyants, moi j'ai des livres audio, j'en ai plein.
Oui.
Puis tu vas mettre ça, tu vas être pogné dans le trafic, puis tu vas pouvoir rire et pleurer en
c'est
m'entendant. J'aime l'idée que c'est moi qui raconte mon histoire, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui la raconte. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis j'aime aussi, dans les studios, parce que j'avais jamais fait ça, donc je découvre quelque chose, c'est une nouvelle expérience.
Mais as-tu toujours eu ce détachement-là, c'est-à-dire, je suis pas très bonne, et le dire avec le sourire, puis avec légèreté?
Toi, tu restes là-dessus, hein?
Ah non, mais j'en reviens pas. Non, c'est parce que c'était un bel exemple de sagesse.
Ah, merci, mon Dieu, merci. Ben, je veux dire, je sais pas, peut-être que c'est une force cachée qu'il faudrait que je développe un peu plus, parce que présentement, c'est pas une force.
Il y a quelque chose de très rassurant d'entendre quelqu'un qui le dit avec un ton aussi léger, de « Ah, ça, là, je prends encore bien.
» Ben, c'est ça. Donc, il faut connaître ses forces et ses faiblesses.
Oui. Ben là, il y a une force de la radio, c'est que ça vient nous couper au beau milieu d'un bel entretien. Eve Salveille, on se retrouve dans quelques minutes entre nous.
Merci.